très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la gangrène, on est fini pour la
bordelle. L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute du Canu Info, vous êtes bien sûr Radio Canu, la plus rebelle des radios, le 102.2, nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 20h et j'ai donc Laurent en face de moi, bonsoir à toi.
Bonsoir Delphine.
Et nous allons encore ce soir partir d'un objet artistique, culturel et c'est un film, pour découler la grosse partie quand même de notre émission. Nous allons commencer cette émission en vous parlant du documentaire La Cravate que nous avons été voir, ce qui nous permettra de parler de l'extrême droite des fachos, hein, d'une manière un peu globale, mais vous allez voir, ça va être dense. Nous discuterons aussi avec Laurent de ce nouvel ouvrage de Joe Sacco, Payer sa terre.
Payer la terre, en
payer
fait.
Payer la terre, ouais. D'accord, oui. J'ai eu un petit doute en le lisant, je me suis dit, il me semblait que c'était pas ça. Ça nous permettra là aussi de parler de racisme au Canada. On pourra parler un petit peu d'autres choses, comme les cahiers du cinéma, puisque nous parlons aussi de documentaires et de cinéma ce soir. Mais c'est vrai que j'avais aussi juste envie de dire que quand même, j'ai appris, grâce à cette grande soirée des Césars, qu'il y avait des degrés et des hiérarchies dans les discriminations et la violence. Dans la bouche de certains et certaines hein, qui ont défendu... le monsieur, là, vous savez, qui a beaucoup été critiqué, monsieur Polanski, qui a donc eu un prix. Hein.
Le violeur.
Incroyable. Ah bah, je veux dire, c'est quand même assez incroyable cette affaire. Et donc, moi, j'ai appris dans la bouche de certains et de certaines que, d'abord, on commençait à faire chier, nous, les femmes. Et en particulier les féministes. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, où je pensais qu'à un moment, on arrêterait de nous dire ça. Quand j'étais plus jeune, on disait les féministes, vous savez, c'est les camionneuses, les gouines. Je pensais qu'on sortirait de cette espèce de truc zarbi hein, qui était une violence, hein, une insulte. Alors Edwin, c'est pas une insulte hein, pour nous, mais ça l'était dans la bouche quand même de ces hommes et parfois aussi de ces femmes qui, souvent soutenues par la religion, voulaient garder des idées conservatrices. Hein, il fallait qu'on fasse des enfants, qu'on reste à la maison et surtout qu'on ferme nos bouches. Et là, il y a quand même un certain nombre de femmes qui ont décidé de ne plus fermer leur bouche, d'ouvrir bien grand la mâchoire pour gueuler contre les violences que les femmes subissent d'une manière constante, que ça soit au quotidien ou d'une manière plus précise et en particulier dans ce cinéma français qui se soutient hein, bien quand même puisqu'on a eu des réactions assez franches. Pour dire que quand même ça valait le coup et puis surtout des gens qui se sont dit que quand même le film était important parce qu'il fallait lutter contre la haine que les juifs et les juives peuvent subir, et en émettant une hiérarchie. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est quelque chose, moi, qui m'est incompréhensible, comment on peut mettre des violences les unes avant les autres. Elles sont évidemment toutes à combattre, mais on l'a quand même entendu plusieurs fois, que donc on peut être un homme qui lutte contre le racisme et en même temps être un agresseur sexuel. C'est, ma foi, fort passionnant, hein. Donc, je sais pas, demain, est-ce que les gens du Rassemblement National qui pourraient acheter bio seront des gens respectables? Je fais exprès pour une caricature qui n'a rien à voir, mais on en est là quand même, hein, dans la bêtise qu'on a pu entendre sur ces Césars et sur ce prix remis à monsieur Polanski pour son film J'accuse, que nous n'avons pas vu ici, puisque nous avons décidé de le voir par d'autres moyens. On ne va pas lui donner nos sous, c'est ce qu'on a décidé. Voilà, donc j'avais juste envie d'en dire deux mots, ce qui me permet d'enchaîner.
Oui, puis je voulais redire un truc sur ceux et celles qui disent qu'il faut séparer l'œuvre de
débat que nous avons déjà eu, toi.
Oui, oui, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été condamné, donc on ne sépare pas l'œuvre de l'auteur. Et puis il y a une femme qui a fait un petit commentaire en disant moi qui ai été violée, j'ai du mal à séparer l'œuvre de mon violeur, en fait. Et c'est peut-être ça qu'il faut exprimer, et qu'effectivement, il n'y a pas de condamnation, pas d'excuses, rien. Hein. Si vous relisez, parce que grâce à l'INA, nous avons des archives, ouais. Vous avez Polanski qui explique pourquoi il aime bien les petites filles et pourquoi il va dans certains pays où c'est autorisé d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes filles de 13 ans. C'est juste à gerber, c'est juste une horreur, et c'est juste quelqu'un qui n'a jamais assumé, qui n'est jamais allé devant la justice, et qui donc n'a jamais fait ni de mea culpa, ni n'a jamais payé pour les exactions qu'il avait fait. Voilà, on dit pas qu'Emile, lui, était un très bon chauffeur de bus, ça serait horrible. Et on va pas dire donc que c'est un bon réalisateur non plus, tant qu'il n'aura pas réglé ses comptes avec la justice.
Et un autre mot qui est ressorti, hein, c'est le mot hystérique. Ah ça, nous les femmes on adore.
Vous êtes toujours hystérique, tu sais.
Bah alors en plus quand je suis gouine hystérique, si tu veux, il paraît que ça dédouble ma personnalité, ouais. Donc c'est fantastique. Et alors après en plus tu mets une couche de féminisme par tout ça, tu fermes la boîte, et puis bah je pense que il y a des gens qui nous veulent quand même beaucoup de mal. Et donc c'est aussi des idées qu'on retrouve dans l'extrême droite, hein, cette idée que les femmes doivent rester aussi à leur place. Alors on a une Marine Le Pen qui veut rendre son parti plus lisse, plus acceptable. Elle y arrive plutôt pas trop mal, hein, finalement, hein, puisqu'aujourd'hui on voit des gens qui ont rejoint le Rassemblement National et qui avait déjà fait le pas avec le Front National, qui pour essayer de rendre les choses un peu plus jolies. Alors ce qui fait qu'on a de l'autre côté des extrémistes radicaux, des skinheads comme on appelait ça avant, hein, les jeunesses identitaires, le GUD, tous ces sous-groupes, hein, je vais pas énumérer parce que faut aller sur, je sais pas, aller sur la Horde par exemple, qui a souvent fait, hein, tout plein de très beaux diagrammes, hein, pour vous nous expliquer un petit peu tout ça, qu'on retrouve un petit peu de partout. Les gens sont toujours là, bien présents dans ce parti, et ceux qui trouvent que Marine Le Pen n'est plus assez radicale vont continuer à monter d'autres petits sous-groupes pour répandre la haine et la violence, il faut bien le dire. Alors on s'est intéressé à ce film La Cravate, un film de Étienne Chailloux et Mathias Théry. C'est donc un documentaire qui est en salle, que l'on peut aller voir, et qui suit Bastien qui a 20 ans et qui milite à l'extrême droite, donc pour les élections de 2017.
Voilà, de la présidentielle.
À la présidentielle, et donc qui souhaite que Marine Le Pen gagne ses élections, et qui met corps et âme, hein, dans la bataille, dans une petite ville, pour aider le parti à gagner.
Ouais, c'est Amiens d'ailleurs la ville.
Tout à fait. Alors, ça interpelle évidemment dans sa forme. Si vous lisez un article de Next Libération qui n'a pas aimé le film, ben nous c'est tout l'inverse de pourquoi on a aimé le film, c'est-à-dire que la forme nous a particulièrement intéressés. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de documentaires très politiques qui finalement résonnent souvent comme un sujet d'envoyé spécial, hein, cette émission de France 2. Je dis pas que c'est pas bien de faire ça, mais on en a eu beaucoup. Et là, on a une forme un petit peu particulière qui repose sur plusieurs mécanismes. D'abord, un accompagnement par une voix off, et puis un face-à-face avec ce Bastien, donc militant d'extrême droite, engagé en politique, jeune, et puis en même temps des images évidemment, puisque ces deux réalisateurs l'ont suivi. Alors c'est une construction particulière.
C'est une mise en abîme, hein. C'est comme quand l'écrivain se décrit dans un roman en train d'écrire, ou un dessinateur se dessine en train de dessiner. Là, quelque part, c'est ça, c'est qu'ils font valider le texte de la voix off qu'on entend, donc qu'on entend sur les images du documentaire, et ça s'arrête régulièrement, et on a ce face-à-face avec ce militant d'extrême droite, qui qui valide le texte de la voix off. Donc voilà, c'est une sorte de mise en abîme, c'est très intelligemment fait, hein, parce que c'est très compliqué de parler de l'extrême droite de cette manière-là, surtout de montrer, c'est un peu à la striptease, puisque les images qu'on a, avec certes une voix off, mais il y a pas de commentaire politique dessus, il y a juste de l'analyse, de la description, de l'aide pour comprendre ce qui se passe, mais voilà, la mise en abîme, elle est importante, elle est nécessaire, sinon le film fonctionnerait pas.
Alors il s'agit bien d'un portrait.
Oui, c'est le portrait d'un militant, c'est pas le portrait de l'extrême droite, c'est pas...
Voilà. Du parti, c'est à un moment d'un portrait. Alors, nous, on s'était demandé comment ces deux documentaristes avaient rencontré ce Bastien. Alors il s'avère qu'en fait, l'un des deux, Mathias Théry, a fait un travail où il a filmé plusieurs militants, et donc parmi ces militants, il y avait Bastien. Ensuite, ils ont contacté le parti.
Il filmait des militants pour une émission de télé de plusieurs couleurs politiques.
C'est ça. Et donc, ils vont contacter le parti, qui va finalement leur donner des noms. Et c'est Bastien qui est retenu. Ils vont le rencontrer quand même assez fréquemment. Et il va y avoir un travail d'abord d'entretien, un travail un peu sociologique, au fond, qui n'est pas l'idée de construire une analyse politique du parti, mais bien de comprendre comment le parti se retrouve avec des militants comme ça, et comment finalement ces militants font le parti, c'est-à-dire ils renversent un petit peu la machine. Et ils vont donc le rencontrer, l'enregistrer, mais ne vont pas utiliser ces bandes audio. Et puis ils vont aller évidemment le suivre dans ses activités, les meetings, dans la rue, là, quand il va distribuer des tracts au marché, quand il rencontre fièrement les cadres du parti, et puis avec évidemment les autres membres de la petite élite locale du parti d'extrême droite. Et c'est cette construction-là qui nous amène évidemment à avoir donc ce triptyque, c'est-à-dire la partie documentaire filmé dans les moments de vie, la partie de face à face, et puis cette voix off qui construit un documentaire que nous on a trouvé plutôt intelligent et plutôt intéressant dans sa forme, et qui nous amène effectivement pas du tout toujours le Front National ou le Rassemblement National. Là-dessus on est assez clair, il me semble que les deux réalisateurs le sont aussi finalement dans le film.
Oui, même si on sent qu'ils rejettent pas le personnage, la personne qu'ils ont devant eux, il y a pas de haine, voilà, ils sont dans l'écoute, essayent de comprendre et de décrire qui est ce... En fait, c'est une sorte d'œuvre où c'est comme s'ils faisaient une peinture où ils peignent, ils font le portrait. Alors ils peuvent faire le portrait d'Hitler par exemple, donc là ils font le portrait d'un militant du Front National. C'est casse-gueule ce qu'ils font, parce que il faut pas servir la soupe des fachos. Et alors pour ça ils ont plein d'astuces, et donc ils ont cette fameuse mise en abîme qui leur permet de prendre de la distance. La voix off joue beaucoup aussi sur le fait qu'ils ne servent pas la soupe aux idées du Front National. Ça s'appelait le Front National à l'époque, hein.
Voilà.
Et ou du RN maintenant, ce serait pareil. Et ils ont aussi, dès qu'il y a un discours du parti, le son se coupe en fait, et on a la voix off qui prend et qui décrit des choses. Donc on n'a jamais un seul discours du Front National ou du Rassemblement National qui apparaît dans ce film. Donc ça c'est une manière très intelligente d'avoir contourné ce risque de servir la soupe.
Et puis on s'était dit aussi qu'en fait le risque peut-être aussi dans ce genre de travail sur l'extrême droite, c'est toujours ensuite après d'avoir des critiques en disant là ils nous ont menti, là c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on a dit, on n'a pas mis le bon montage. Alors là effectivement tout ce qui est dans ce documentaire est validé par ce militant à tout instant. Il y a même des choses qui leur sont révélées lors de cette validation, et c'est bien cette construction là aussi qui est intéressante, parce que il peut pas dire maintenant que tout ça n'est pas réel, n'est pas vrai. Tout est justifiable, tout est justifié. Donc évidemment on sent aussi qu'il y a peut-être un moyen aussi de se protéger des attaques, et que ça évite aussi les polémiques que savent très bien créer le Front National et le Rassemblement National aujourd'hui, dire qu'on étouffe le sujet en créant de la polémique et du buzz. Donc voilà, c'est aussi ça nous qui nous intéresse. Et puis ce portrait finalement, parce qu'ils ont aussi voulu montrer que il n'y a pas que des salopards visibles dans l'extrême droite, et en particulier dans ces partis, ce parti du Rassemblement National où maintenant on porte des costumes, on porte une cravate, on est propre sur soi, et puis on a tenté de nettoyer tous ceux et toutes celles qui s'étaient battus et qui sont des anciens skinheads.
Parce que l'autre intérêt du film, quand même, moi je trouve, c'est que non seulement on a le portrait de ce militant qui ne représente rien, hein, qui est pas représentatif. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est juste un militant parmi tant d'autres. Derrière, on a toute la machine du Front National qui est montrée. Voilà comment on met de côté, on empêche de parler ceux qui ont un discours trop extrémiste, même si on les garde parce qu'on est d'accord avec ses idées. Il y a tout ça qui apparaît derrière. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est involontaire et indirect, quelque part, peut-être pas involontaire, mais en tout cas indirect. Mais on voit toute la machinerie que le Front National met en œuvre, notamment sur cette scène incroyable qui se passe à Whirlpool, dans cette usine qui doit fermer, etc., où les militants de Marine Le Pen arrivent, ne se font pas jeter. Alors ça, c'est un truc qu'on ne comprend pas, nous, hein, parce que on serait travailleurs et travailleuses là-bas. Dès qu'ils arrivent, alors ils arrivent cachés, naturellement, mais une fois qu'ils se révèlent, ils ne sont pas jetés. Et ça, c'est absolument atroce. Et en plus, ils arrivent à manipuler tout le monde. On les voit à l'œuvre, en fait. C'est vraiment très intéressant là-dessus.
Après, moi, je trouve que si cette scène et ce travail, ce moment est très intéressant, en même temps, il sort du travail qui était mis en place avec Bastien et qu'on sent qu'ils ont quand même voulu insister sur un point particulier. Montrer comment le parti fonctionne, alors qu'en même temps on n'est plus avec ce militant, on en sort un petit peu. Donc je trouve que là c'est un peu le décalage où on sent bien qu'ils ont voulu nous raconter autre chose et nous faire aussi une autre démonstration. Donc voilà. On est très intéressé par tout ça et en même temps, on sait aussi qu'à un moment, il y a eu des, ça avait choqué par la suite certains militants syndicalistes. Mais voilà, bon, c'est le petit truc peut-être qui est un petit peu déplacé par rapport au discours qui se tient tout le long de ce documentaire. En tout cas, voilà, nous, on a trouvé ça plutôt intéressant et dans sa forme et dans son contenu. Et c'est aujourd'hui donc avec ce documentaire qu'on avait envie de vous parler d'extrême droite et de racisme.
Ouais, question qu'on s'est posée aussi, est-ce que les militants du facho là, ils vont voir le film? Alors on s'est dit oui parce que c'est que le portrait d'un de leurs militants finalement. Et dans la salle, on s'est dit, est-ce qu'il y a des fachos?
Et on s'est demandé ceux et celles qui partaient très vite, est-ce qu'ils avaient très envie de faire pipi ou est-ce qu'en fait ils étaient très énervés du film?
Voilà, on s'est donné, parce que le film, c'est pas.
Ça raconte quelque chose.
Ça raconte, mais c'est pas un pamphlet contre le RN ou le FN, hein, c'est bien plus subtil que ça. Mais du coup, voilà, on s'est posé la question. Si vous allez le voir, vous regarderez, vous verrez si vous avez des petits faf avec vous. Je vous le souhaite pas, en tout cas. Donc voilà, du coup, on va parler des fachos. Et je vais commencer à faire un gros truc sur les municipales, puisque les élections, si elles ont lieu, hein, parce qu'on sait pas bien encore, cause de coronavirus, là. Il y a pas mal d'affaires, hein, du coup, qui ressortent avec l'extrême droite, comme d'habitude, vous me direz, dans les élections. Et je vais lire le communiqué de Solidaire 13 et Sud d'industrie, en fait, qui est sorti hier ou aujourd'hui, là, puisqu'ils ont eu un petit souci. Donc, je vous lis carrément le communiqué et vous allez comprendre de quoi il est question. Donc, je lis. Les idées d'extrême droite et ceux qui les propagent n'ont rien à faire dans Sud Industrie et Solidaire. C'est avec stupeur et dégoût que nous avons appris que Francis Lopez, membre du bureau de Sud Industrie 13, avait rejoint en cinquième position une liste conduite par le Rassemblement National au municipal à Martigues. L'adhésion et l'appartenance à l'Union syndicale Sud, Industrie et Solidaire sont incompatibles avec les idées d'extrême droite, notamment du Rassemblement National. Évidemment, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Francis Lopez ne peut plus être adhérent de Sud Industrie dans ces conditions, puisqu'il s'est lui-même placé en dehors de nos statuts et valeurs. Le dernier congrès de l'Union syndicale Sud Industrie en 2017 avait notamment travaillé sur une résolution rappelant le combat qu'il faut mener contre l'extrême droite traditionnelle, donc Rassemblement National, mais aussi contre l'ensemble des intégrismes religieux et autres organisations identitaires réactionnaires et antisémites. Voilà, Soral, Dieudonné, toute la bande. Et nous avons toujours pris soin de lier les deux dans notre combat. C'est pour cette raison que le secteur Laïcité et lutte contre les discriminations de l'Union syndicale Sud Industrie a notifié à Francis Lopez ce jour même sa suspension dans l'attente effective de son exclusion qui sera définitive dans quelques jours. L'Union syndicale Sud Industrie rappelle par la même occasion son attachement à la fois à la charte d'Amiens qui place le syndicat comme acteur principal de lutte mais surtout son positionnement antiraciste et antifasciste. Nous rappelons également que deux responsables nationaux de l'Union syndicale Sud Industrie sont sous le coup de plaintes déposées par le Front National à leur encontre, démontrant au passage que l'extrême droite est l'ennemi des travailleurs et des travailleuses et n'hésite pas à jouer un double jeu en méprisant les classes populaires. Ce n'est pas non plus la première fois qu'un syndicaliste fait carrière en politique en reniant pour cela les idées de lutte, de solidarité et d'unité des salariés, qui sont notre combat commun. Cet opportunisme mélangé aux idées nauséabondes d'extrême droite n'a pas et n'aura jamais sa place dans le mouvement ouvrier qui semble rassembler ce qui est épars afin de construire le progrès social. Francis Lopez n'étant désormais plus membre de Sud Industrie et son syndicat sous le coup d'une exclusion définitive, il est donc désormais impossible pour M. Lopez de se réclamer de notre organisation ou d'une qualité liée à celle-ci et de fréquenter les manifestations ou locaux des organisations de Sud Solidaire. L'extrême droite et ses différentes composantes sont à l'opposé des valeurs de république sociale, de socialisation des moyens de production, d'unité de tous les travailleurs et travailleuses et du syndicalisme que nous portons. Il n'est donc pas possible de le considérer comme n'importe quel parti et nous continuerons de former nos militants et militantes dans ce combat global pour une société débarrassée de toute exploitation et domination. Nous y veillerons sans compromis et avec vigilance. Donc voilà, il leur est arrivé une petite histoire un peu triste, hein, ce qui était déjà arrivé à la CGT, qu'un syndicaliste soit aussi un petit faf qui se présente sur une liste. Donc là c'était à Martigues, une réaction salutaire mais qui est classique, mais qu'il faut toujours signaler, hein, parce que c'est important de toujours réagir sur ce genre de choses.
À Nantes, ça a beaucoup énervé aussi les militants antifascistes et les syndicalistes, puisque c'est la maison des syndicats qui a été ouverte, oui, à une petite réunion pour le Rassemblement National. Ça a agacé tout le monde, évidemment, parce que une bourse du travail, une maison des syndicats, ça paraît
incompatible. Marine Le Pen l'a rappelé plusieurs fois lors des dernières grèves qu'elle était contre la réforme de la retraite, mais elle était contre les grèves et la CGT. Alors, je veux parler des municipales un petit peu. Bah, on continuait. Quelques petites brèves et puis des choses un peu moins brefs. Sur un bilan par rapport à 2014, grosso modo, le Rassemblement National a déposé une centaine de listes en moins que le Front National, ce qui est donc plutôt une bonne nouvelle pour nous. 597 listes avaient été déposées en 2014. Alors, c'est très criant dans certaines régions. En Ile-de-France, par exemple, dans l'Essonne, il y a une seule liste aujourd'hui, contre 15 en 2014. Dans les Yvelines, c'est 4 au lieu de 16, etc., etc. Donc voilà, ils ont du mal à trouver des gens qui assument d'être d'extrême droite jusqu'à briguer un poste dans une mairie ou en tout cas à apparaître sur une liste du Rassemblement National, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Ça veut dire que la dédiabolisation n'est pas si efficace que ça, et ça nous fait quelque part encore plaisir.
Après, il y a aussi des gens qui pourraient être sur leur liste. Le problème, c'est qu'on a quand même de l'abruti fini et que ça ne leur rend pas service. Donc ils essayent aussi de ne pas prendre ces gens-là. Parce que bon, l'idée c'est quand même pour eux de prétendre qu'ils savent gérer une municipalité, on en doute encore, hein, de notre côté. Donc en prenant des gens qui ne seraient pas capables de le faire, ils risqueraient de s'embourber encore un peu plus. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont un petit peu en manque a priori. Hein.
Ouais. Alors des fois ils font des trucs ridicules. Alors ça arrive aux autres partis, mais là comme on parle de l'extrême droite, on va s'acharner sur eux. C'est à Belfort, la candidate du RN qui se présente, donc qui était de liste pour Belfort, elle pourra pas voter.
C'est bête,
ça super drôle. Parce que bon, elle a loué un appartement, elle a pas mis son nom sur la boîte aux lettres. Donc elle loue l'appartement juste pour se présenter, hein, vous l'avez bien compris, ça se fait beaucoup quand même. Et donc elle n'a pas le droit de voter, elle a perdu son droit de vote. Elle a dénoncé des méthodes fascisantes. Enfin, c'est juste qu'il y a des règles et qu'il faut qu'elle apprenne à les respecter. En même temps, elle n'est pas super honnête, hein, puisqu'elle n'habitait pas dans l'endroit où elle se présente. Bon, ça c'est, même si c'est un classique, c'est quand même ridicule. À Libourne, la liste RN est emmenée par le conseiller régional Gonzague Malherbe, hein, dirons-nous, c'est son nom. Et le numéro 5 sur la liste, qui s'appelle Lionel Berton, a tenu des propos comme avant, on va dire, de l'époque de Le Père Pen. Il a dit « Maintenant stop, faut s'organiser, faire des groupes de milices, s'armer et lutter contre les étrangers. Moi je suis prêt, et vous ?» Voilà, ça n'a pas plu, donc il s'est fait lourder, hein, de la liste. Voilà, c'est un de plus, me direz-vous. À Villepinte, Marine Le Pen a aussi lourdé Alain Mondino. Donc il a perdu son investiture, lui. Il avait été épinglé parce qu'il avait tenu des propos très, 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 très antisémites. Et il a été lourdé par Marine Le Pen le 4, donc hier, alors que il y a quelques jours, il avait été reçu par Jordan Bardella, le vice-président du parti, qui avait rien vu ou qui avait rien dit. Donc voilà, c'est une petite magouille interne de l'extrême droite. Et puis il est arrivé à un truc un peu triste, un peu drôle, un peu ridicule, pour Thomas Cazenave, donc qui est candidat à La République en Marche à Bordeaux. Donc il a une belle liste. en 63e position, donc non éligible, eh ben, il y a un ancien sympathisant de l'extrême droite, donc il s'appelle Vincent Bois, qui a 29 ans et qui s'était présenté en 2014 sur la liste de Jacques Colombier, candidat du Front National. Il représentait le Ciel, le syndicat, qui, enfin, le syndicat, le parti qui s'appelait Souveraineté, Identité et Liberté, là, une sous-branche du Front National. Et donc voilà, il s'est retrouvé sur la liste. Bon, le candidat Thomas Cazenave a dit que c'était un accident, bien évidemment, hein, c'est toujours accidentel quand on a un petit facho sur sa liste. Et puis il y a le truc drôle aussi à Marseille, où sur la liste du candidat qui doit être Guy Bertrand de Balanda.
C'est Bernard Maranda le candidat.
Oui, mais alors voilà, donc Bernard Maranda, c'est le candidat, le tête de liste, mais Guy Bertrand de Balanda, qui était 47e sur la liste, est mort en fait depuis le 14 février dernier. Donc un grand ancien de l'extrême droite, hein, un vrai royaliste qui a jamais renié ses engagements. Donc voilà, et Bernard Maranda lui avait rendu hommage, il avait dit, je cite, je ne compte plus les anecdotes que nous avons vécues ensemble, les condats du Gude à Aix, à Marseille, les soirées grandioses dans les caves de Sarraguan, tapissées de fleurs de lys et de croix celtiques. Et il avait dit, c'est toi qui concrétises le mieux la formule que nous avions reprise, le fascisme c'est la fête. Ça fait super peur. Alors ce texte qu'il a publié sur Facebook, il l'a retiré hier après-midi, hein, parce que ça fait pas propre, ça fait pas lisse.
Mais tu sais, c'est comme à Calais, là où il y a un certain nombre de collectifs qui se sont montés quand il y a eu de la répression sur les migrants et les migrantes. Il y a eu la haine qui est apparue, et donc il y a un observatoire de la lutte contre la haine à Calais qui cherche un peu
des noises,
le caca,
ouais,
gratouille dedans, et a trouvé que le colistier de monsieur Roussel, Laurent de son prénom, donc qui est sur la liste du en haut sur l'extrême droite, hein, Rassemblement des citoyens calaisiens, ça s'appelle en fait sa liste, l'extrême droite, son colistier, donc ils ont ressorti des photos où il a un tablier avec Mussolini dessus.
C'est pas mal.
Puis d'autres choses derrière. Ouais. Voilà, c'est juste, je vais même pas m'étendre, c'est juste que voilà, il y a des gens qui font un vrai travail de recherche. Donc par exemple, c'est vrai, sur Marseille, il faut lire Le Ravi aussi, parce que c'est comme ça qu'on apprend pas mal de choses sur ce qui peut se passer aussi dans cette bonne ville, avec la politique toujours, ma foi, très intéressante. Et Le Ravi, voilà, s'intéresse aussi au copinage.
Le Ravi, c'est un journal local.
Voilà, exactement. Sur les copinages entre les politiques là-bas sur place. Donc c'est plutôt assez intéressant en général. Et ils feront monter pas mal d'informations, il faut bien le dire. Les autres informations, on peut aussi les retrouver sur La Horde, qui tient à jour des petites pépites intéressantes sur ce qui peut se passer dans l'extrême droite un peu partout pour ces municipales.
Voilà, il y en a pas mal que j'ai pris sur La Horde.
Ouais.
Et alors, toujours sur l'extrême droite, il y a l'éternel retour des affaires de gens qui sont inscrits soi-disant contre leur gré, on ne sait pas bien. Donc c'est à Chalon-sur-Saône, c'est la deuxième fois que ça arrive à Chalon-sur-Saône, c'était arrivé il y a pas mal d'années déjà. Il y a une dame notamment, alors il y aurait quatre personnes qui affirment se retrouver sur la liste du Rassemblement National contre leur consentement, dont une femme notamment qui a été un peu médiatisée, qui a 75 ans, dont j'ai perdu le nom mais je vais retrouver, Bernadette Comaret, qui dit qu'ils ont abusé d'elle, non, enfin, dans le sens où ils l'ont fait signer des trucs sans qu'elle fasse trop attention, elle a 75 ans quand même, voilà. Donc elle a un avocat, elle a fait un recours notamment auprès du tribunal administratif qui a rejeté son recours, ce qui est bien triste. Donc la liste a été validée avec elle et trois autres personnes qui refusent d'en faire partie en disant qu'ils ont été abusés. Alors la question qui se pose toujours dans ce genre de truc, est-ce que c'est parce que elles ont été un petit peu abusées ou parce que, et c'est le discours d'ailleurs du Rassemblement National, mais qui n'est pas complètement illogique, c'est qu'il y a eu trop de pression autour d'elle et qu'elle, ces personnes-là regrettent et du coup s'enlèvent de la liste. Et effectivement, c'est ce que je disais, c'est que c'est toujours diabolisé le Front National, le Rassemblement National, et tant mieux, et qu'effectivement c'est pas facile d'assumer d'être présent sur une liste, donc on ne sait jamais si c'est entre les deux. Quoi qu'il arrive, on a déjà eu ça lors d'autres élections du Front National qui inscrivaient des gens contre leur gré, donc on n'est pas à l'abri que ça soit ça. et on n'est pas à l'abri non plus que ce soit quelqu'un qui assume plus quelques semaines après. Donc voilà ce qu'il en est. En tout cas, c'est juste drôle et ridicule. Voilà, c'était ce que je voulais dire. C'était il y a 6 ans, là, donc pour les dernières élections 2014, il y avait déjà eu pas mal de choses comme ça, de gens inscrits officiellement, en tout cas ce que les gens déclaraient contre leur avis sur les listes à l'époque du Front National. Et c'était arrivé aussi d'ailleurs déjà à Chalon-sur-Saône. Voilà ce que j'avais sur le Front National et, ou le Rassemblement National sur les élections municipales. Est-ce que tu avais des choses à redire toi sur le municipal?
Non, j'ai d'autres choses à dire, mais
voilà. Alors du coup, moi, j'ai aussi une autre info. Vous savez que le Rassemblement National est un parti ruiné. A priori, ils savent pas gérer leur argent. Et il y a un truc qui est assez marrant qui est en train d'arriver. C'est un salarié, Michael Herminger, qui est passé devant les prud'hommes. Alors qui était chargé de mission proche de Florian Philippot à l'époque, qui a expliqué plusieurs fois qu'il trouvait que le parti fonctionnait mal, c'était de l'amateurisme. Il disait en fait celui qui gagnait c'était la dernière personne rentrée dans le bureau de Marine Le Pen, c'est lui qui avait le dernier mot, et elle suivait le dernier qui passait en fait, laissant entendre qu'elle a aucune idée et qu'elle a aucune force, etc. Et donc le parti d'extrême droite avait poursuivi ce personnage, Michael Herminger, pour violation de la cause de confidentialité. Quand il avait raconté tout ça, il lui réclamait 100 000 euros de dommages et intérêts. Il a été condamné à payer 1 euro symbolique au prud'homme, parce que le préjudice n'était ni démontré ni caractérisé, d'après le conseil des prud'hommes. Par contre, en retour, le parti était sommé de lui payer les heures supplémentaires et la requalification de son contrat en CDI. Donc voilà, parce que le prud'homme avait constaté que voilà, il y avait un peu des abus, il respecte pas bien la loi, grosso modo, le Rassemblement National, le Front National à l'époque. Et dans un mois, ça fera un an qu'il y a eu ce jugement au prud'homme, et le parti a toujours pas payé. Ça veut dire que alors l'avocat va poursuivre le parti pour le demander sa liquidation judiciaire, puisque il refuse de payer, que sur le compte du Rassemblement National il resterait, d'après ce qu'a pu récupérer l'avocat, 3008,09 euros, alors que il y a un dommage à intérêt à payer qui est de plus, enfin contre le salarié, de retard, tout ça, de plus de 20 000 euros. Donc on en est là, donc la procédure risque de faire mettre le Rassemblement National en liquidation judiciaire. Alors ça tombe mal pour le parti à quelques jours des élections municipales. Alors faut savoir que le parti est en très mauvaise posture financière parce qu'ils savent pas gérer leur argent, hein. C'est un vrai problème de gestion. Les salaires sont énorme pour les gens qui travaillent pour le Front National, et donc face à ça, ils n'arrivent pas à gérer. Ils ont une dotation de 5 millions d'euros quand même par l'État, tous les ans. Donc comment, avec 5 millions d'euros, on peut ne pas arriver à gérer un parti? Eh bien, il faut s'appeler le Rassemblement National. Donc là, l'État va ponctionner cette année 4,2 millions sur les 5 qu'il donne pour rembourser les dettes. Donc il leur restera pas grand chose pour gérer eux-mêmes, mais vu comme qu'ils savent pas gérer eux-mêmes les choses, a priori c'est obligatoire. Alors c'est pour un prêt, notamment pour le micro-parti de Jean-Marie Le Pen, Cotelec, de la présidentielle de 2017, qui doit rembourser et qui rembourse pas. Et il y a aussi la convocation, le 2 juin, devant une juridiction russe, pour les 9,4 millions d'euros empruntés par le FN, et qui est pas remboursé, parce que le RN emprunte, mais rembourse pas, que ça soit en France. Ils se plaignent beaucoup que les banques françaises veulent pas leur prêter, mais quand ils trouvent une banque pour prêter, il rembourse pas. Donc forcément, en dehors des idées d'extrême droite qui peuvent repousser une banque qui a pas envie de s'afficher en financeur de l'extrême droite, bah en même temps, une banque qui aurait pas d'avis sur la politique et qui veut juste gagner de l'argent, bah ils ont pas intérêt à le faire avec le Rassemblement National puisqu'ils payent pas leurs dettes. Donc voilà, ils sont poussés de plus en plus. On rappelle que il y avait déjà eu une affaire en 2017-2018 où l'État avait ponctionné 1,1 million d'euros avait ponctionné 1 million d'euros, je crois, sur les recettes. Enfin, sur l'argent que donne l'État à ce parti. Et puis s'ajoute la baisse des cotisations, puisque ils sont passés de 1,86 million d'euros en 2018 à 1,1 million d'euros en 2017. Grosso modo, ça laisse entendre qu'ils sont passés de 46 000 adhérents à 27 000 adhérents. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qui nous réjouit, même si c'est pas le nombre d'adhérents qui fait le nombre de votants et le résultat aux élections, c'est toujours sympathique de voir voilà, un parti d'extrême droite plonger parce qu'ils sont incapables de gérer de l'argent. Donc on se dit comment ils peuvent vouloir gérer un État ou une ville. Voilà, c'est juste des incompétents, dirons-nous. Ce qui n'est pas lié à la couleur politique, la compétence peut-être ailleurs, mais en tout cas elle est là.
Apparemment les gens qui se sont réunis devant la permanence de monsieur Gérard Collomb semblent tout à fait d'accord que l'incompétence est assez partagée chez les élus. Je tiens à le signaler quand même, voilà.
Le constatons aussi chez Gérard, effectivement. Je vais parler de la Grèce maintenant pour l'extrême droite, puisqu'il est en train de se passer un truc apocalyptique hein, en Grèce. Vous avez entreaperçu, je pense, ce qui s'est passé. Hein, le gouvernement turc d'extrême droite de Recep Tayyip Erdogan a décidé d'ouvrir les frontières et de faire passer, de se débarrasser des réfugiés. Ils ont même affecté des cars pour emmener les réfugiés qui avaient dans le pays à la frontière grecque pour mettre la pression sur l'Europe et pour faire rentrer tout ça en Grèce. Et le haut de la Grèce est enfermé par des grillages et des choses un peu infranchissables. Les hommes et les femmes, les enfants qui sont partants pour essayer d'échapper à leurs conditions apocalyptiques, que ce soit en Turquie ou en Syrie, passent maintenant par la mer et atterrissent sur des îles. Et il y a le cas de l'île de Lesbos avec 86 000 habitants qui a été pas mal médiatisé. On a des milices d'extrême droite aidées par des habitants qui attaquent, qui brûlent des centres d'accueil des réfugiés, qui attaquent les bateaux, qui coulent les bateaux. Enfin, on a une extrême droite très très forte qui est très présente actuellement dans cette région de l'Europe, aidée par le gouvernement de droite réactionnaire qui a été élu il y a quelques temps. Et on a cette situation ultra critique avec une incapacité de l'Europe à gérer le problème, puisque la Grèce, effectivement, il semble relativement dépassée. Le gouvernement, il s'appelle Kyriakos Mitsotakis, volontairement laisse tout pourrir, parce qu'il est contre d'accueillir des réfugiés. Et on a une situation qui dégénère et qui permet à l'extrême droite de s'exprimer ouvertement, de recueillir de plus en plus de soutien de la population, parce que la population souffre de cette non-gestion des migrants, des migrantes qui se retrouvent sur ces îles, et on a une situation explosive et qui permet à l'extrême droite de revenir en force dans la politique grecque, tout ça avec l'aide de l'Europe et du gouvernement de droite grec. Voilà, c'est une situation critique et triste. Heureusement, il y a quelques Grecs qui soutiennent et qui aident les réfugiés, mais malheureusement, la situation reste très très compliquée. Voilà. Je voulais dire, c'est en lien avec l'extrême droite, puisque effectivement l'extrême droite est très en première ligne dans cette problématique avec la Turquie. Et toujours sur l'extrême droite, j'ai encore deux infos du coup avant de te laisser la parole, que je monopolise un peu. Hein.
Mais je t'en prie, je te la laisse bien volontiers. Bon, voilà.
Alors, on va parler du terrorisme d'extrême droite. Alors, on a vu que l'Allemagne venait de redécouvrir bizarrement que les fachos pouvaient faire des actes terroristes. Hein. On se rappelle de la fusillade le 19 février à Hanau. Enfin, il y a eu plein d'autres actions. Il y a eu des tentatives d'entendement qui ont été découvertes à temps dans pas mal d'endroits en Europe, du coup. Et je suis allé regarder les chiffres de la direction de l'administration pénitentiaire sur les prisonniers qu'ils estiment être membres d'extrême droite ou proches ou arrêtés pour terrorisme. Donc on a 611 détenus en France officiellement incarcérés pour des faits en lien avec le terrorisme. Il y en a 28 liés à l'extrême droite traditionnelle, classique, qu'on connaît, qui est issue de l'OS, de cette tradition bien française hein, qu'on a connue, qu'on connaît depuis les années 30, un peu avant, voilà. Se rajoutent 505 derrière, donc loin derrière, qui sont considérés comme islamistes, mais qui sont aussi une mouvance d'extrême droite. On rappelle, c'est un mouvement, c'est terroriste islamiste, c'est de l'extrême droite religieuse. Donc voilà, on se rend compte que finalement, l'essentiel des terroristes en France, c'est de l'extrême droite, hein, quand même. Qu'elle soit religieuse ou un peu plus classique, comme on, l'extrême droite, on va dire blanche, là, raciste, tout ça. Donc voilà, et c'est pas négligeable. Il y a pas mal de renouveau. D'ailleurs, ils ont le record, le deuxième sur la marge du podium des pires attentats qui aient lieu en France. Ils sont deuxième, hein, l'extrême droite. On a tous en tête le Bataclan avec les 91 horribles morts. Et ben en fait, le deuxième attentat le plus meurtrier, c'est 27 morts, et c'était l'OAS en 61. Donc voilà, c'est pour rappeler que voilà, l'extrême droite est particulièrement aime bien les attentats, les tentatives de coup d'État, on rappelle la cagoule ou des choses comme ça, au début du XXe siècle. Voilà. Et bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, je vais rebondir sur le baston social. Donc tu as parlé un peu tout à l'heure de ces nouvelles formes d'extrême droite là qu'on a, qui changent de nom tout le temps. Le baston social, organisation néo-fasciste ou raciste ou d'extrême droite, qui a été créée en 2017, a été dissoute le 24 avril 2019, donc il y a à peu près un an, par Castaner. Il y avait 6 antennes dans des grandes villes françaises, notamment à Lyon. C'était inspiré de Casa Pound, un mouvement néofasciste italien, avec pas mal de militants issus du GUD notamment, mais aussi de l'Action française. Donc c'est voilà, c'est la nouvelle forme de, voilà, de l'extrême droite française, avec ce baston social où on a on fait des œuvres sociales, on va distribuer de la nourriture au SDF français, donc toute cette forme là. Il y a eu pas mal d'attaques, il y a eu des victoires comme je l'ai dit, et le mouvement se réorganise en permanence. Et on a des nouvelles structures qui arrivent. On a Audace à Lyon, qui est la suite, la renaissance. Ils font tout pour pas tomber sur l'appellation reconstitution de ligue dissoute et d'être condamné. Donc ils changent de nom, ils changent un peu les statuts. Mais en fait, on a bien évidemment la même chose. Et il y a eu l'affaire de La Rajas il y a quelques semaines, où c'est un village juste à côté de Lyon, à une cinquantaine de kilomètres, dans les Monts du Lyonnais très exactement, où ils ont monté, alors c'est Terra Nostra Monts du Lyonnais, ça s'appelle, donc notre terre en français, et voilà, ils ont loué un local dans ce village, ce gros village de La Rajas, 1800 habitants. Alors il y a eu une petite réaction d'abord des élus, qui était plutôt pas mal. Il y a eu aussi une manifestation avec des gens qui venaient d'un peu partout. Il y a eu à peu près un millier de personnes au moins, et c'était plutôt bien. On rappelle quand même que La Rajas, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y avait déjà eu en 2012 un barbecue nationaliste dans un bar du village. Alors, voilà, ça rappelle juste que l'extrême droite lyonnaise est très implanté dans les Monts du Lyonnais, et que ça fait des années qu'ils phagocytent comme ça des locaux et qu'ils essayent de répandre leurs idées nauséabondes. Donc voilà, on ne sait pas ce qui va se passer pour ce local. On espère qu'il va pas survivre, il va pas leur permettre de continuer de propager leurs idées. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Alors Audace, par exemple, donc qui est la nouvelle vitrine, un peu respectable. Hein, c'est la suite du baston social. Audace, ils vont à nouveau donner à manger au SDF. C'est un peu la vitrine respectable. Derrière, il y a pas mal d'autres sous-groupes de nationalistes et de fascistes, notamment Jeunesse Lyon, hein, c'est ceux qui ont revendiqué l'attaque du bar Place Colbert en fin décembre. Donc la lutte contre l'extrême droite, elle continue toujours, et à Lyon elle est difficile parce que il y a peu d'action de la part de la police, de la part de la justice contre ces groupes. On le voit quand ils montent Audace, qui est la suite du baston social, personne ne bouge, personne ne dit rien. On a une absence de réaction. On a notamment de la métropole ou du maire de Lyon, hein, qui ne se positionne surtout pas. On n'a pas vu de communiquer suite à la création d'Audace. Et il y a donc le fait que les politiques en place, les dirigeants, laissent faire ces groupes. Ils ont une complicité importante, hein, dans le développement de ces groupes et des idées d'extrême droite qui vont avec. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur l'extrême droite. Je vais aller vomir, ça me fera du bien un peu.
Ou bah je vais parler des nazis, comme ça tu vas pouvoir dormir un tout petit peu plus. Oui, c'est une info qui a quand même beaucoup circulé parce que c'est assez exceptionnel de trouver de tels documents. On est en Argentine et il y a l'ancien lieu, l'ancien siège des nazis à Buenos Aires, l'Argentine qui a accueilli un certain nombre de ces nazis.
Qui sont souvent partis grâce à l'Église catholique européenne.
Et il y a des gens qui vont donc chercher et fouiller dans ce travail. Et on tombe par hasard sur une liste avec 12 000 noms dedans. 12 000 noms.
Donc 12 000 noms de nazis qui ont fui le nazisme et qui ont été accueillis par l'Amérique du Sud et donc par ce pays en particulier.
Et qui ont pas juste fui, hein. C'est-à-dire que dès les années 30, on a des nazis qui ont été s'installer en Argentine. Ouais. L'idée étant de créer un nouveau lieu de développement, un lieu bien accueillant, hein. C'était l'Argentine des années 30. Et puis, donc, il y a ces noms. D'abord, ça, c'est exceptionnel. Je vous rappelle qu'il y a des gens qui, à travers le monde, ont recherché les nazis, ont passé une vie entière à traquer ces hommes et ces femmes qui se sont cachés avec des nouveaux noms, des nouveaux métiers, qui ont traversé le monde pour essayer d'échapper à la justice.
Notamment des juifs qui avaient perdu des gens de leur famille et qui ont fait un très très beau combat. Ils ont passé toute leur vie à chercher ces anciens nazis pour les poursuivre. C'est quelque chose d'assez incroyable.
Et donc il y a ce travail-là qui est absolument incroyable. Ces documents sont exceptionnels. Et puis il y a tout le fonctionnement derrière avec l'argent. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Et donc, nerf de la guerre.
C'est pas ce que j'ai dit ?
Non, t'as dit l'inverse.
Ah, la guerre de, le guerre ouais. de la nerf. Alors,
il y a de la guerre.
Il y a du pognon. En tout cas, c'est ça l'histoire. Ça révélait ces documents qu'il y avait beaucoup d'argent qui avait été envoyé en Argentine et que l'Argentine a renvoyé de l'argent. Et tout ça s'est passé par où ? Par la Suisse. Je fais des mouvements avec mes bras.
Ouais, la Suisse qui est déjà pas blanche hein, dans la Seconde Guerre mondiale, hein, on rappelle. Là, ça continue, du coup, tu veux dire ?
Ah bah c'est intéressant parce que d'après ces éléments, on pense qu'il y a toujours de l'argent qui reste hein, sur des comptes
sur
en Suisse.
L'argent volé aux Juifs, spolié, volé aux Juifs par les nazis.
C'est une vraie spoliation et donc il y a cet argent qui a été utilisé à la fois pour développer les idées nazies et les groupes nazis en Argentine et ailleurs. Et puis ça a permis aussi de renvoyer de l'argent dans l'autre sens. Donc c'est une espèce de d'aller-retour à la fois de blanchiment, de circulation, de soutien. Et c'est ce que tous ces documents vont être mis à jour, hein, là, puisqu'il y a eu une décision de rendre tout ça public là, en début de semaine. Donc c'est bien, c'est vachement important, parce que ça veut dire qu'il faut, encore une fois, se demander d'où vient l'argent de certaines familles et de certaines entreprises. Ne jamais oublier que certains ont construit leur fortune familiale et les fortunes d'entreprise à partir de cet argent extrêmement sale, cet argent qui a quand même, enfin, c'est assez terrible de se dire que des gens sont morts pour que des gens puissent s'enrichir derrière. Et c'est pas juste les nazis, les vilains allemands, ça. C'est des gens qui, en Argentine, ont construit toute une vie sur cet argent. Il y a tous les produits chimiques, hein, les éclos, toutes ces histoires-là, qui ont bien profité de cette circulation monétaire. On parle quand même de milliards d'euros, hein, qui seraient toujours en Suisse. Alors c'est là, je ne sais pas le dire. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu le Crédit Suisse. Parce que si je vous le dis, ça va donner un truc qui fait le Schweizerische Kreditanstalt. Sans l'accent. Donc c'est devenu le Crédit Suisse et il y aurait quand même encore de l'argent. Il paraît qu'il y avait même un numéro de compte très précis sur lequel cet argent était placé. Et on parle quand même de milliards d'euros encore aujourd'hui, hein, voilà, qui y sont recherchés. Alors, moi, ça m'a amené à me dire que je pourrais vous parler et vous dire de ce que je pense de cette série proposée par Amazon qui s'appelle Hunters, qui a dans ses rangs de comédiens, en particulier Al Pacino. Ça fait beaucoup parler parce qu'évidemment, on se retrouve avec une star du cinéma dans une série qui nous parle de ces fameux nazis qui ont été à travers le monde, des gens qui pourraient les chasser, les fameux Hunters. Voilà. Alors, il faut se souvenir qu'aux États-Unis, il y a eu les paperclips, hein, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique ont accueilli des nazis. J'aime pas quand les gens disent des anciens nazis. C'est des nazis.
C'est des nazis, ouais.
Pour travailler.
Il y a les scientifiques, le plus connu étant celui qui travaillait dans les fusées, hein.
La NASA.
Voilà. Bah, qui a permis de développer, parce que les nazis étaient très en avance sur pas les fusées, mais les missiles. Et du coup, ils ont, les Américains avaient.
Alors, sur la guerre, et évidemment sur la NASA
aussi. Et donc, ils ont servi à la NASA après.
dans la chimie. Enfin voilà, il y a des gens qui sont quand même bien installés grâce à la démocratie des États-Unis d'Amérique. Et c'est un peu le point de départ de cette série qui se passe dans les années 70 où des chasseurs de nazis se regroupent pour rendre justice et rendre surtout vengeance. Cette série est-elle réussie? Moi, je ne crois pas.
Parce que ça part d'une bonne idée.
Oui, et puis le problème de cette série, c'est qu'elle a le derrière entre trois chaises, hein, carrément, si c'est possible. Ça pourrait être une très chouette série B, avec des personnages très caricaturaux qui sont parfois à la limite un peu du racisme, on peut le dire peut-être un peu comme ça. Mais en tout cas, qui sont parfois un peu caricaturaux, mais on aurait pu faire une série B,
voilà, des
avec
mecs qui
de
vont
l'éclat,
chasser les nazis,
du plaf, plouf, ouais, plaf, voilà. Boum, plaf. Des scènes de sang, il y a une scène au début hein, de tuerie qui est, il faut le dire, c'est magnifique, hein, parce qu'elle est complètement décalée. Et puis, on aurait eu ça. Alors, il y a des gens qui font beaucoup référence à Tarantino, ou à ce qu'on appelait la Black Exploitation, c'est-à-dire un genre de film très exagéré, mais aussi sur une communauté, avec les Noirs. Et puis là, ça aurait été la même chose avec des gens qui veulent chasser les nazis avec des juifs. Bon, sauf que ça marche pas du tout comme ça, parce qu'en même temps, on nous renvoie sur le passé et on va dans les camps. Et quand on veut parler des camps et qu'en même temps on y met de l'humour qui n'en est pas, et parce que d'un seul coup on veut redevenir sérieux parce qu'on n'ose pas vraiment faire de l'humour sur ce qui s'est passé dans les camps d'extermination, et ben là ça casse la gueule. Et puis on a quand même des personnages qui sont une caricature, mais à faire, mais ça fait gueuler quand même un petit peu quand même, hein. Cette jeune noire avec sa coupe afro qui évidemment est là avec le black power, mais en même temps tout ça est extrêmement superficiel, là où ça aurait pu être extrêmement intéressant de développer justement la solidarité. Et puis on pourrait croire que ça se base sur une histoire, sur des faits un peu réels. Mais non, effectivement, ça se base sur le fait que les États-Unis d'Amérique ont accueilli des nazis. Mais à part ça, il n'y a rien de plus de réel. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont inventées. Et encore une fois, ça aurait pu être une série B extrêmement intelligente sur le fait de caricaturer aussi les nazis. Parce que là, les nazis, ils sont tellement plus encore méchants que les nazis que ça en devient ridicule. Moi, en tout cas, je trouve. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense aussi que quand on veut montrer des choses encore plus horribles qu'elles n'ont été, ça ne rend pas service non plus à l'histoire, et ni non plus à l'invention et à l'imaginaire de ce que peut nous amener une œuvre artistique. Donc, moi, je trouve que c'est un truc un peu casse-gueule, très franchement. Visuellement, bah, ça pique tout à Tarantino, par exemple, ou à justement d'autres hein, qui ont fait des choses. Donc, c'est un peu dommage, parce qu'il n'y a pas une identité propre qui s'est créée avec cette série. Et donc, on a quelque chose qui n'est, pour moi, pas réussi. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, simplement, à chaque fois, ça fait une heure, donc parfois, on commence un petit peu à s'ennuyer. Et puis, alors, le gros, gros point extrêmement négatif pour moi de cette série, c'est que, en fait, tout ça relève du complot. Et alors, c'est-à-dire que là, on a le quatrième Reich qui veut se mettre en place donc aux États-Unis d'Amérique dans les années 70, et donc il y a du complot. Et en fait, cette histoire de complot prend une telle force que ça devient une farce. Et ça devient ridicule. Et donc, je trouve que voilà, ça vaut pas le coup de regarder cette série. Vous en avez le droit, parce que vous avez le droit, évidemment, de vous faire vos propres avis, et c'est plutôt important d'en débattre hein, tous et toutes ensemble. Mais c'est bien dommage quand même. Alors après, il y a des gens qui gueulent en disant on n'a pas le droit de se moquer du nazisme, on n'a pas le droit même de rigoler de ce qui s'est passé dans les camps. Si, ça aurait pu être quelque chose de fort, justement, pour critiquer la violence et l'horreur de ce qu'a pu être ces exterminations, simplement en ne faisant pas le choix de choisir entre des moments sérieux, pseudo-sérieux, et de la grande marade, et ben, cette série ne fonctionne pas.
D'accord. Et ben maintenant, je vais parler bande dessinée. Puisque je vais vous parler de Josako. Alors, vous avez sûrement entendu parler. Alors, c'est, je pense, le leader, l'incontournable maître du reportage en BD. On a connu, alors on l'a connu au tout début avec Palestine, qui était sorti en deux tomes à l'époque et qui a été regroupé en un seul volume, où il parlait de la Palestine. Donc, il est allé en Palestine et après, il l'a remis en BD son voyage. Il se met en scène un peu dans les BD quelquefois, on le voit dessiner avec ses petites lunettes. Ensuite, il a fait beaucoup sur la guerre en Europe centrale, donc il y avait Soba, une histoire de la Bosnie, il y avait Gorazde, il y avait Journal, il y avait Le Fixeur, vous savez, c'est ces gens qui accompagnent les journalistes. Il y avait après Le Dernier Jour de Guerre, hein, qui raconte la fin de la guerre en Bosnie. Il a fait ça, et puis après il a fait des reportages un peu plus forts, un peu plus forts historiquement, c'est-à-dire qu'il n'allait pas simplement voir, il racontait une histoire. Il y a eu Gaza, notamment Gaza 1956, très beau livre sur l'histoire de la bande de Gaza à Futuropolis, là. Et puis il a fait pas mal comme ça de petites BD de reportage après qui paraissaient dans différentes revues, notamment dans la revue 21. Et sa nouvelle BD qui est sortie il y a quelques semaines s'appelle Payer la Terre. Donc c'est en une collaboration Revue 21 et Futuropolis, la maison d'édition. Et c'est 260 pages autour des autochtones, on va dire, des peuples autochtones, des Indiens du Canada. Notamment de la tribu Dene, D-E-N-E, alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Et en fait, c'est un truc assez incroyable. C'est très compliqué l'histoire des Indiens, alors aux États-Unis, mais là on est au-dessus, on est au Canada, ça se ressemble quand même. Il y a bien les réserves, tout ça. C'est presque pareil, mais pas tout à fait, puisque là c'est plutôt une question de terre et pas de réserve. Enfin voilà, il y a une bataille. Et cette somme, là, ce livre incroyable de 260 pages, raconte. Donc il rencontre des gens et ça aborde tout, mais alors tout, ce qui peut, tous les problèmes liés à ces peuples autochtones au Canada. Donc on y découvre l'appropriation des terres par le gouvernement du Canada et les multinationales, donc pour le pétrole, pour le gaz notamment, et la dépendance de ces Indiens à ces multinationales une fois qu'elles sont installées, puisque en fait, ce qu'on voit, et ce qu'est le porteur, en fait, dans le trait commun, en fait, dans toute l'histoire de ces 262 pages, c'est les Indiens et leur mode de vie. Il y a ceux qui veulent garder un mode de vie un peu traditionnel, hein, donc qui vivent avec la pêche, un peu de chasse, etc. Et ceux qui voudraient vivre dans un monde moderne avec des maisons dures, etc. Et donc ça, c'est quelque chose de compliqué. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit être entre deux? Donc, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Mais autour de ça, il y a le gouvernement qui va pousser à ce que les Indiens perdent leur côté indien et deviennent juste des habitants du Canada. Et se met en place de l'aide sociale. L'alcool vient prendre une place très importante et la majorité des Indiens dans ces régions-là qui ont pu garder leurs terres, alors on explique bien comment ça se passe, hein, la lutte pour garder les terres, toute cette bataille juridique, et ben c'est des gens qui vivent de l'aide sociale et qui ne font rien de leur journée et qui donc boivent de l'alcool. Et puis quand on fait un documentaire, il y va, les gens demandent à être payés pour répondre aux questions. Et il y a une sorte de bascule de ces gens qui avaient une vie incroyable, qui étaient autonomes, qui respectaient la nature, et qui sont devenus une sorte de sous-population du Canada, dépendante des aides sociales. Et ça montre ça, montre aussi le problème des femmes, qui ont pas mal de responsabilités quand même, mais qui n'arrivent jamais à être chef, parce que là aussi, il y a un peu de sexisme. Et ça pose plein de questions, et c'est, grosso modo, c'est quel rapport, comment on peut vivre aujourd'hui, en 2020, avec des colons, même qui sont arrivés il y a très très longtemps, et des peuples autochtones, et quel compromis, quel mix on peut avoir pour essayer de vivre ensemble. Et ça fonctionne pas du tout, hein, dans la société du Canada aujourd'hui. C'est ce que montre vraiment ce livre, où on a plein de témoignages. Et puis il y a au milieu une grosse histoire, les pensionnats autochtones. Ce qui s'est passé donc dans les années 60, le colonisateur, les blancs canadiens sont allés enlever des enfants indiens, parce qu'ils estimaient que l'éducation que leur donnaient leurs parents n'était pas la bonne. Et ils les ont emmenés de force, on parle de 150 000 enfants, hein, de force, dans des pensionnats catholiques, et pour leur apprendre, donc leur faire changer de religion, hein, et puis leur apprendre le monde moderne, tout ça, la culture européenne quelque part, hein, puisque c'est ça, le colon venait d'Europe. Avec une catastrophe totale, perte de la langue, 6000 morts, parce qu'ils étaient bien maltraités, les gamins, des viols, des agressions, enfin tout ce qu'on connaît, hein, des instances religieuses chrétiennes, hein, partout dans le monde. Mais là, ça a été particulièrement fort, puisqu'ils ont essayé de détruire quelque part, avec ces pensionnats autochtones, la manière de vivre des Indiens, leur culture, leur langue et leur vie. Et ça a été incroyable. Alors le Canada s'est excusé, hein, je crois que c'est à partir des années 80, ils ont reconnu l'horreur qui avait pu se passer, aussi bien sur l'acculturation, et puis sur les agressions sexuelles, les viols, les tortures et les morts. 6000 morts quand même. les gamins vivaient dans des conditions exécrables, etc. Alors que voilà, ils ont été enlevés de force à leurs parents. Et ça, c'est bien redit dans la BD. Il y a un gros passage dessus. Et puis ça explique beaucoup la mentalité des Indiens aujourd'hui, qui ont perdu l'habitude de vivre ensemble, d'être collectif, parce que ces pensionnats, ça a cassé leur vision collective. Donc c'est un livre, moi je trouve, une BD immense. C'est vraiment un gros pavé. C'est voilà, on apprend des millions de choses sur ces peuples autochtones du Canada. Josako est vraiment le maître pour faire de la BD de reportage. Il arrive, à partir d'un sujet très difficile, à rendre les choses relativement limpides, voire très limpides. Et puis, les infos télescopes, puisqu'au Canada, ils ont pas mal de problèmes de racisme avec les peuples autochtones. Notamment, il y a de l'opposition pour ces peuples autochtones sur certains gazoducs, certaines installations récentes. Là, il y a pas mal de manifs sur les gazoducs qui s'appellent le Coastal Gas Link. Et du coup, il y a pas mal de Canadiens blancs qui ont proféré des propos racistes contre les autochtones. Ça a obligé la ministre, alors je crois que c'est Madame Shager, je sais pas si je prononce bien son nom, qui est ministre de la jeunesse et aussi ministre de la diversité et de l'inclusion, à réagir, à dire qu'il fallait trouver une solution, arrêter ce racisme. Elle a pas vraiment de solution pour lutter contre ce racisme, voilà, ils essayent de lutter contre, et c'est un vrai problème encore en 2020, le racisme contre les Indiens du Canada. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est donc le Sako qui vient de sortir, mais qui a un long reportage, télescope avec l'actualité aujourd'hui où voilà, le racisme anti-indien est toujours très très fort. Et puis on va terminer avec les cahiers du cinéma, parce que c'est quand même
un beau truc. Je ne sais pas si j'ai le temps. C'est embêtant de faire quoi, mais allez, il y a donc toute une rédaction des 8 journalistes qui ont décidé de quitter les cahiers du cinéma. Les cahiers du cinéma qui sont quand même un monument de la presse française, un monument de la critique du cinéma. Alors certains d'entre vous, et certains d'entre vous, je les entends déjà, vont de dire que c'était un truc pour les intellos. Mais n'empêche que les cahiers, c'était une manière de parler du cinéma, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs critiques. C'était quand même, comme le rappelle le communiqué de presse de la rédaction des Cahiers, François Truffaut, avec un article extrêmement important pour la rédaction qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, qui date de 1954, Une certaine tendance du cinéma français, et cet article s'énervait contre la bourgeoisie dans le cinéma français. Donc c'était important pour eux de quitter ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ben c'est des actionnaires assez classiques dans la presse qui vont s'emparer des cahiers, et puis surtout ce sont des producteurs de cinéma, et là on se demande où est l'indépendance quand les gens qui font les films sont les mêmes qui détiennent la presse. Ça pose un petit problème. Ils critiquent aussi avec leur départ la concentration dans les mains de quelques-uns de la presse française, et que ça aussi ça pose un problème. Voilà, c'est quand même un monument, et que cette rédaction s'en aille, c'est assez incroyable.
Ils ont tous démissionné,
ouais.
C'est un truc
incroyable,
symboliquement fort.
On a donc aujourd'hui des industriels qui rachètent à tort et à travers, parce que ça fait joli la presse française, et parce que c'est bien chouette, hein, comme monsieur Xavier Niel par exemple. Bon, bah, ils sont juste en train de tuer un bel objet. Voilà, je sais pas, vous pouvez l'acheter une dernière fois, peut-être. Attends, il faut quand même se dire que la déléguée générale de la Société des réalisateurs de films, elle est nommée, excusez-moi, comme directrice générale. Comment tu peux avoir une indépendance ?
Il n'y en a plus, c'est tout.
Il n'y en a plus. Voilà, on se retrouve dans 15 jours, non ?
Oui, c'est ça.
Et puis, ben voilà, on vous embrasse tout ça. Hein.
Et on vous laisse avec une rediffusion de La Petite Cuillère.
Ciao, ciao !
Bye, bye.